La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h.
Bonjour et bienvenue dans la tête au carré. Plus de 1000 milliards de planètes. Selon les estimations des scientifiques, notre galaxie, la Voie lactée, abrite plus de 1000 milliards de planètes. Certaines sont faites de roches et tournent autour de leur étoile à une distance compatible avec la présence d'eau liquide à leur surface. Reste en suspens la grande question. Certains de ces mondes lointains sont-ils habités? L'apparition de la vie est-elle un processus banal qui s'est produit d'innombrables fois aux quatre coins du cosmos? Ou bien sommes-nous seuls dans l'univers? Vertigineuse question que nous allons aborder cet après-midi dans la tête au carré à l'occasion de la sortie du Figaro Sciences qui consacre son premier numéro à ce sujet. Je vous présente nos invités dans une poignée de secondes. Bonjour Axel Villard.
Bonjour Daniel.
Aujourd'hui, à la une, on part sur les traces des Néandertaliens de la vallée du Rhône.
Oui, puisque deux dents d'enfants de Néandertal vieilles de 250 000 ans ont été analysées et elles nous éclairent sur le quotidien difficile de nos lointains cousins en Ardèche.
Et en fin d'émission, nous retrouverons notre rendez-vous Science Grand Format en partenariat avec France 5 qui ce soir diffuse un documentaire sur la civilisation des Minoens en Crète. Voilà pour le sommaire de cette tête au carré réalisée par Fanny Beauhuon et préparé par Chantal Lemontagnier.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé.
Et pour partir à la recherche d'hypothétiques formes de vie extraterrestre, autour de la table, l'astrophysicienne Athéna Kousténis, la microbiologiste Purification Lopez Garcia et le journaliste Philippe Hénarejos. Bonjour et bienvenue à tous les trois.
Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Philippe Hénarejos, vous êtes le rédacteur en chef du premier numéro du Figaro Science, paru hier en partenariat avec Ciel et Espace, intitulé « Sommes-nous seuls dans l'univers ?». Alors, la réponse à cette question est-elle aujourd'hui à la portée des instruments d'investigation dont disposent les scientifiques? Est-ce qu'on touche au but?
On ne touche plus au but qu'il y a 3000 ans. C'est une question qu'on se pose depuis au moins 3000 ans. Mais dans différents domaines de la science, que ce soit l'astronomie ou la biologie, on a progressé avec des éléments de réponse. Pas la réponse encore, mais c'est intéressant parce que cette question est aujourd'hui alimentée par de nouveaux éléments tangibles.
Ouais. Athéna Kousténis, astrophysicienne, vous avez participé à plusieurs missions d'exploration du système solaire. Il y a encore des chances de trouver des formes de vie extraterrestres dans un coin de notre système solaire?
Oui, tout à fait. Je pense que si on doit chercher la vie quelque part, il faut commencer par regarder dans notre voisinage. Et aujourd'hui, justement, on a des moyens d'aller chercher au fond de notre système solaire où il y a des mondes très intéressants pour la vie.
Ouais, on va les découvrir, en tout cas quelques-uns de ces mondes. Purification Lopez Garcia, vous êtes microbiologiste, spécialiste des formes de vie qui se développent dans les milieux extrêmes sur Terre. Ces formes de vie qui se développent en milieu extrême, ça pourrait nous permettre d'imaginer ce qui pourrait exister sur des planètes lointaines?
Oui et non. En fait, les formes de vie qui vivent dans les milieux extrêmes aujourd'hui sont des formes déjà très adaptées, très évoluées par rapport à l'origine de la vie. Et par contre, elles nous renseignent, elles permettent d'étendre les limites physico-chimiques de la vie dans lesquelles on peut espérer éventuellement de trouver une vie ailleurs, si elle existe, bien sûr.
On élargit le champ des possibles.
Exactement, on élargit le champ des possibles.
On part en quête de vie extraterrestre cet après-midi dans la tête au carré pour adresser une question à nos invités. Il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Axel Villard, on retourne 250 000 ans en arrière pour découvrir le quotidien des hommes de Néandertal de la vallée du Rhône. C'est votre une de la science aujourd'hui.
Oui Daniel, on remonte le fil de l'histoire. J'ai presque envie de dire on remonte le fil dentaire de l'histoire parce que c'est avec seulement deux molaires que cette étude a été menée. Les deux dents en question proviennent du site archéologique de Perth, c'est en Ardèche. Et elles ont été étudiées par une équipe spécialisée en Australie. Elles nous apprennent énormément sur le quotidien de ces Néandertaliens. Et pour en parler, nous sommes en studio avec vous, Marie-Hélène Moncel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez dirigé ce site de Peyre pendant 13 ans. Vous êtes directrice de recherche pour le CNRS, membre de l'équipe Histoire naturelle de l'homme préhistorique au Muséum. Alors j'imagine qu'avec la quantité d'informations nouvelles que vous avez reçues, vous ne regrettez pas vraiment d'avoir laissé vos collègues australiens couper ses dents en deux. Hein.
Ah non, 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 pas du tout. De toute manière, ces dents ont été analysées auparavant, avant l'étude. On en a fait des CT scans, donc des microscans, donc on a toutes les informations nécessaires. Et je pense que ça valait la peine parce que les résultats sont assez éblouissants et ça nous apporte énormément d'informations très fines sur le comportement de ces enfants néandertaliens.
Alors on va parler ensuite de ce site, mais quelles sont les choses qui vous ont le plus étonné quand vous avez reçu les résultats ?
Tout. Tout m'a étonné. Ce qu'ils ont fait sur le barium, sur le plomb, les informations sur l'âge de naissance, sur les moments de leur vie où ils ont été malades. Toutes ces informations nous rendent tellement plus proche le comportement de ces enfants néandertaliens. Alors on a déjà bien sûr beaucoup d'informations sur les néandertaliens. On sait comment ils circulaient, ce sont des chasseurs-cueilleurs, on sait comment ils s'adaptaient à différents climats et environnements. Mais là, on est rentré encore plus en détail dans la vie de ces enfants.
Alors pour comprendre ces résultats, parlez-nous d'abord un petit peu du site. Racontez-nous un peu son histoire néandertalienne, parce qu'elle est longue et elle a été longuement occupée, cette cavité.
Voilà, donc le site, en fait, je l'ai fouillé pendant très très longtemps, ça valait la peine parce que c'est un site qui a livré plusieurs occupations je dirais presque pré-néandertaliennes, puisqu'elles sont datées de 250 000 ans. Les vrais néandertaliens classiques, ceux qu'on représente dans toutes les images, les reproductions, datent de 100 000 ans. C'est là où ils ont acquis tout leur caractère. Mais avant, il leur faut quand même plus de 300 000 ans pour acquérir tous ces caractères.
Mais alors, vous êtes en train de nous dire que dans cette cavité, il y a 150 000 ans d'histoire des générations qui se sont succédées.
Non, non, non. La cavité, les occupations se focalisent sur environ 250 000 ans, leur âge.
D'accord.
Il y a plusieurs occupations qui datent autour de 250 000 ans. Mais on est en plein milieu de la période où les néandertaliens vont acquérir leur caractère anatomique, qui vont les conduire aux vrais néandertaliens il y a 100 000 ans. Mais ce qui est intéressant pour moi, qui travaille sur les comportements, ils acquièrent également toute leur manière de faire et de vivre, qui vont caractériser les derniers néandertaliens. Donc en fait, c'est une période un peu clé, une période intermédiaire, qui nous permet de comprendre la logique néandertalienne, en quelque sorte.
Ah oui.
Et pourquoi pas, un jour, nous permettre d'aller plus en avant, pourquoi ils ont disparu.
Alors Marie-Hélène Moncel, parmi les découvertes les plus étonnantes dans ces dents, il y a ce plomb, qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver. Comment est-ce que vous expliquez la présence de ce plomb dans l'émail de ces dents d'enfants ?
Alors, donc ils ont l'étude des dents, donc ils ont analysé les dents en particulier comme des cernes à l'intérieur des dents, qui sont des éléments de croissance de ces dents, et ces dents enregistrent un certain nombre de paramètres, comme les vôtres. Quand vous grandissez, vous enregistrez un certain nombre de paramètres liés à votre alimentation, liés à votre environnement. Et donc, ils ont identifié une forte concentration de plomb à un certain moment de la vie.
Un peu comme pour les arbres, il y a ces cernes qui permettent de connaître un peu l'histoire.
Mais c'est encore plus fin, et surtout, cette équipe a mis au point des méthodes d'analyse et d'enregistrement extrêmement fine qui permet d'analyser même au niveau de la saison, puisque un des enfants, ils ont démontré qu'il était né au printemps, donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, que les deux ont été malades pendant l'hiver, parce que les cernes, enfin les petits éléments de croissance montrent des perturbations liées à ça, par les isotopes notamment de l'oxygène. Et le plomb, donc ça a effectivement beaucoup posé de questions, donc du coup ils m'ont demandé, mais est-ce qu'il y a des éléments, des mines de plomb dans les environnements ? Et du coup j'ai cherché donc tout autour, et effectivement dans un périmètre de 25 km, on a des mines de plomb. Donc on a supposé que ces enfants avaient sans doute bu de l'eau très chargée en plomb, lors de leur séjour dans une cavité où il y avait cette forte teneur en plomb qui avait contaminé leur dentition.
Et on peut imaginer alors que ces enfants étaient atteints de saturnisme à cause de ce plomb ?
Alors je ne suis pas compétente pour dire le degré de saturation qu'ils avaient. Est-ce que ça pouvait effectivement conduire à un saturnisme ? Oui, pourquoi pas ? Parce qu'ils ont été capables de le mesurer, c'est donc que la concentration était assez importante. Mais c'est très intéressant parce que on sait que ces individus sont des chasseurs-cueilleurs et qu'ils sont mobiles. Ils bougent selon des raisons qui sont liées au gibier, à la matière première, etc. Sans doute aussi d'autres raisons non alimentaires qui nous échappent. Mais là, ça nous montre aussi le périmètre minimum de circulation de ces individus, de ces enfants, même si on savait qu'il existait, lorsqu'on travaille par exemple sur là où ils allaient chercher des silex pour fabriquer leurs outillages, on a aussi une idée du territoire. Mais là, c'est un élément supplémentaire de ce territoire.
Une dernière question.
Oui, est-ce qu'on voit dans ces dents les différents déplacements, je veux dire, on sait qu'on était dans telle cavité, puis après vers cet endroit où il y a du plomb, puis on est allé vers un autre endroit. Est-ce que dans les dents, on voit les différentes cavités visitées ou déplacements ?
Non, on peut simplement dire qu'ils sont allés dans une cavité où il y avait du plomb. Or, quand on fait, donc on sait que dans un périmètre de 25 km, on a des mines de plomb qui étaient exploitées au Moyen-Âge, qui étaient connues. Maintenant, on ne pourra jamais, peut-être en analysant la particularité de ce plomb, je ne pense pas qu'ils puissent aller jusque-là, dire exactement ça vient de cette mine ou ça vient de cette zone où ils ont circulé.
Ouais. Inouï quand même tout ce qu'on peut faire dire juste à des dents. Ça vous a surpris vous-même.
Il faut aussi parler deux mots du barium.
Ouais,
le barium, voilà, la consommation de lait, ça a permis aussi de dire qu'un enfant a été sevré à 2 ans et demi, qui correspond un peu à ce qui se passe dans des populations non industrielles. Et donc, à partir de 2 ans et demi, il s'est mis à consommer ce que proposait le groupe, et beaucoup de viande, puisqu'on sait que les Néandertaliens sont des grands carnivores, même s'ils consomment aussi autre chose, puisque le tartre sur les dents a montré qu'ils consommaient aussi des végétaux, même des céréales sauvages mis en bouillie et cuites. Donc, on entre dans un univers extraordinaire sur ces hommes.
Oui, oui, passionnant, passionnant. Merci Marie-Hélène Moncel.
C'est moi qui vous remercie.
Et à demain, Axel.
À demain, Daniel.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, 3 patients paralysés retrouvent une motricité partielle de leurs jambes grâce à des stimulations électriques de la moelle épinière. C'est un pas de géant pour le domaine, accompli par une équipe de l'École Polytechnique de Lausanne. Non seulement ces 3 hommes ont retrouvé un contrôle et une motricité des muscles, des cuisses et des mollets, mais ce contrôle a persisté une fois les stimulations électriques désactivées, précisent les chercheurs. Ils ont tous pu remarcher sur de courtes distances avec l'aide de harnais. Il reste 23% de terres sauvages sur Terre. L'estimation nous vient de chercheurs australiens dans la revue Nature. Ces zones dites sauvages n'accueillent aucune activité humaine, industrielle ou agricole, mais peuvent contenir des populations indigènes vivant de la chasse ou de la pêche. Et selon les chercheurs, ces zones sauvages auront un rôle crucial pour limiter l'impact du réchauffement à venir sur les écosystèmes. Et pour terminer, comment savoir quand le panda géant est prêt à s'accoupler? Il suffit d'ouvrir ses oreilles. L'espèce très solitaire se reproduit difficilement en captivité. La femelle panda n'est féconde que 48 heures par an et toute tentative de rassemblement trop brusque des deux partenaires entraîne un combat plutôt qu'un ébat. En analysant les vocalises des pandas en période naturelle de reproduction, des chercheurs ont identifié ces cris particuliers, des cris particuliers que s'échangent mâles et femelles lorsqu'ils sont disposés à s'accoupler. L'idée serait donc maintenant de diffuser ces chants par haut-parleur aux pandas avant de les rassembler pour savoir si c'est le bon moment et éviter les déconvenues. Sommes-nous seuls dans l'univers? Nous abordons cette vertigineuse question dans le dossier de la tête au carré dans un instant.
Oh, dis-moi oui. Shoot.
Et vous avez reconnu les Rita Mitsouko, Andy, sur France Inter.
Essaye de dire E.T.
E.T. Téléphone.
Téléphone ?
E.T. Maison téléphone.
E.T. téléphone à sa maison. Il veut téléphoner chez lui.
La tête au carré.
La vie existe-t-elle ailleurs que sur notre planète? C'est la question du dossier de la tête au carré aujourd'hui, avec autour de la table Purification Lopez Garcia, microbiologiste au laboratoire écologie systématique et évolution, Athéna Koustenis, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris, et Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace et du premier numéro du Figaro Science, intitulé Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est un nouveau magazine qui sort dans les kiosques, et pour ouvrir cette nouvelle série, c'est donc « Sommes-nous seuls dans l'univers ?». Vous abordez la question sous de nombreux angles, Philippe Hénarejos, avec des philosophes, des scientifiques de différentes disciplines. Vous faites aussi un point historique et on découvre que la question taraude l'humanité depuis très longtemps, depuis des millénaires. On remonte 3000 ans en arrière. Déjà, on se demandait, est-ce qu'il existe une vie ailleurs ?
Oui, ben c'est bien naturel parce que le ciel a toujours été au-dessus de nos têtes finalement. Et même si il y a très longtemps, dans l'Antiquité et avant, on ne savait pas quelle était la nature des étoiles, on a mis très longtemps à le savoir. Ça laissait quand même supposer un ailleurs et une pluralité des mondes qui a été évoquée lors de l'Antiquité. Mais cette question est sans cesse alimentée par des recherches, et il faut bien dire qu'au cours du XXe siècle et en ce début de XXIe siècle, les choses progressent quand même beaucoup du côté des sciences, pas simplement de l'astronomie.
Ça progresse très très vite, parce que il suffit de remonter un peu plus d'un siècle en arrière, les astronomes, certains d'entre eux, observaient Mars et imaginaient des choses qui aujourd'hui nous font rire, mais des martiens, des constructions, des canaux creusés par les martiens. Il y a un siècle, on en était encore là.
Oui, mais c'était naturel. Quand vous regardiez Mars au télescope, vous voyez en gros une jumelle de la Terre. Vous voyez une planète qui tourne à peu près 24 heures sur elle-même, qui a des calottes polaires avec des saisons. Donc on voit la glace qui grossit en hiver et qui diminue en été, avec des changements de teinte qui étaient à l'époque perçus comme des changements dans la végétation éventuelle. Donc tout laissait à penser que Mars pouvait être notre monde. Aujourd'hui encore, quand même, on sait que Mars est très inhospitalière, mais on sait aussi que la planète Mars a débuté sa carrière, sa vie, comme la Terre à peu près, avec de l'eau, avec une atmosphère qui était certes pas respirable, mais sur Terre non plus.
Et pas respirable pour nous.
Pour nous aujourd'hui. Mais ces deux planètes ont eu un destin qui a divergé. La Terre est on sait ce qu'elle est advenue, mais Mars qui était plus petite a perdu son atmosphère, son eau, etc. Mais en tout cas, les conditions initiales semblaient être les mêmes. Donc ça, c'est intéressant aujourd'hui encore d'envoyer des sondes gratouiller la surface de Mars, voire un peu en profondeur. C'est d'ailleurs l'objectif de la prochaine sonde européenne ExoMars qui partira l'an prochain, avec un forage à 2 mètres de profondeur, pour voir si on trouve soit des organismes qui auraient pu survivre si d'aventure ils ont existé au début de Mars, ou carrément des fossiles, c'est-à-dire une vie disparue. Est-ce que sur Mars, les mêmes conditions ont donné les mêmes résultats que sur Terre ?
Athéna Koustenis, ça veut dire que les scientifiques n'ont pas perdu tout espoir de trouver de la vie sur Mars. En creusant, en fouillant le sol, on imagine encore possible de trouver des micro-organismes sur cette planète ?
Il faut commencer par regarder ce qu'on appelle, je pense, les conditions des mondes habitables. Parce qu'il y a une chose quand même très importante, c'est que non seulement Mars est très proche de nous, mais il se trouve que Mars est vraiment au bord de ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. En d'autres termes, quand nous, les astronomes, qui ne sommes pas de biologistes, ni médecins, ni on ne sait pas exactement comment la vie s'est formée, et je m'en tiendrai là.
Oui, personne ne sait, il n'y a pas que les astronomes qui ne sont pas au courant à ce sujet.
Quand on commence à réfléchir sur le comment est-ce qu'on pourrait éventuellement définir les conditions dans lesquelles la vie pourrait émerger, se développer et se maintenir, je demande aux gens, alors de quoi est-ce que vous avez besoin pour vivre? Et puis en général, on a besoin de ce que vous avez tous devant vous en ce moment, c'est-à-dire un petit peu d'eau, quoiqu'en France, la moitié de temps, on me répond un peu de vin. Enfin bref, donc de l'eau liquide, je précise. Et puis qu'est-ce que vous avez besoin d'autre? Vous avez besoin de manger. Donc on a besoin de nutriments. Et ensuite, la chose que les gens oublient souvent, c'est on a besoin de chaleur, on a besoin d'énergie et d'un environnement stable. D'habitude, les gens me sortent l'oxygène, mais comme vient de le dire Philippe, la vie au départ n'avait pas besoin d'oxygène.
Ouais. Hein, sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène. C'est la vie qui a apporté cet oxygène que l'on respire aujourd'hui.
D'après les théories actuelles, justement. Ouais. Et donc, on cherche ces quatre conditions. Et bien entendu, l'eau liquide, c'est le numéro un. Et la zone d'habitabilité n'est rien d'autre que la distance à partir d'un soleil, que ce soit le nôtre ou un soleil autour d'un autre, dans un autre système planétaire, donc une autre étoile, à laquelle on peut trouver de l'eau liquide. Et là, je vais devenir très précise et je veux dire de l'eau liquide, vous aviez dit tout à l'heure, Daniel, sur la surface d'une planète, et moi je dirais sur la surface ou en dessous de la surface d'un objet. Parce qu'il n'y a aucune raison pour laquelle, une fois qu'on a de l'eau liquide, que ce soit au niveau de la surface ou en dessous de la surface, on ne puisse pas avoir des conditions pour voir la vie émerger.
Je vous vois venir, parce qu'effectivement, il y a certains satellites des géantes gazeuses qui abritent ces océans souterrains. On va y venir dans un instant. On finit le tour de table. Purification Lopez Garcia, pour vous, la microbiologiste, la vie est-elle possible sur Mars? Les conditions telles qu'on les connaît actuellement sur la planète rouge sont-elles compatibles avec la vie?
Pas à la surface, comme ça a été dit, la surface est très inhospitalière, il n'y a pas une atmosphère digne de ces noms, c'est très irradié, donc il n'y a pas l'accès à l'eau liquide à la surface. Or, comme ça vient d'être dit, l'eau liquide est indispensable pour une vie telle qu'on l'imagine. Par contre, il ne serait pas impossible d'imaginer qu'une certaine forme de vie existe dans la subsurface s'il y a de l'eau liquide et s'il y a des sources d'énergie utilisables par la vie, des couples redox, comme ça existe sur Terre. Donc il y a une vie aujourd'hui dans la subsurface, dans la croûte terrestre continentale, dans certaines conditions.
Ouais. Sauf que sur Mars, a priori, des océans d'eau liquide, on en a, Athéna Koustenis?
Non, on n'en a pas actuellement. Comme disait Philippe, même si on ne trouve pas la vie actuellement, si on trouvait des fossiles, si je puis dire, ou des indications que la vie existait par le passé, c'est très important, parce que je rappellerai qu'il y a quand même la théorie de la panspermie, qui est la théorie qui a dit à un moment donné que la vie nous est arrivée de Mars. Ouais. Moi, personnellement, j'y crois pas, mais le fait que la vie soit développée sur Mars à un moment ou un autre, ça fait aussi l'objet de la mission, de l'autre partie de la mission ExoMars que Philippe a mentionné, qui est l'orbiteur qui est actuellement autour de Mars et qui regarde voir s'il y a des traces de chimie organique, de gaz organique, notamment le méthane, dans l'atmosphère de Mars, pour savoir un petit peu plus sur cette planète, si on a la chimie organique dont on parlait tout à l'heure, et l'eau, on va la chercher sous la surface.
Ouais. Alors, chimie organique, c'est chimie du carbone. Hein. Chimie organique, c'est ça, hein. C'est à partir de molécules qui contiennent du carbone. Et alors, pourquoi on dit toujours chimie organique et de l'eau, on a ces deux ingrédients comme une sorte de passage obligé? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une vie qui s'affranchisse de ça?
Pas avec les caractéristiques qu'on attache à la vie actuelle. La chimie organique, donc celle qui est basée sur la molécule, sur l'atome du carbone, elle est très intéressante parce que le carbone peut former des liaisons avec tout un tas d'autres éléments et former des molécules qui sont très facilement recyclables. Or, la vie a cette capacité de se recycler et de transformer la matière très rapidement. Donc, de faire, de créer de l'ordre à partir du désordre en utilisant cette matière et bien sûr de l'énergie. Et pour faire ça, pour travailler cette matière organique à partir du carbone, on a besoin d'un solvant tel que l'eau liquide qui permet justement une grande flexibilité, une grande diversité des réactions différentes basées sur cette chimie. Donc d'un point de vue de la biologie, ça serait vraiment les éléments indispensables. Ça ne veut pas dire, par contre, ce sont des éléments nécessaires, mais peut-être loin d'être suffisants. Et c'est là toute la question.
Il faut de l'eau, mais peut-être que ça ne suffit pas. Athéna Koustenis, de l'eau, vous aviez commencé à le suggérer, il en existe dans ces lunes des géantes gazeuses, dans notre système solaire. On a Encelade, on a Europe aussi, je crois.
On a Encelade, on a Europe, on a aussi Titan et Ganymède, ce sont parmi les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce qui est fabuleux, enfin moi personnellement, ce que je trouve extraordinaire, parce qu'on n'arrête pas de s'épater entre scientifiques aujourd'hui avec toutes les nouvelles qu'on a eues, c'est que dans le cas cas d'Encelade, par exemple, on a vu émerger des geysers qui sont composés effectivement de l'eau expulsée dans l'espace à 400 km de distance. Et là, donc, on se dit, il y a effectivement de l'eau liquide sous la surface. Mais pour les autres satellites, on a des indications indirectes sur le fait qu'il y a des énormes quantités d'eau sous la surface. Et quand je dis énorme, sur Ganymède, par exemple, il pourrait y avoir 10 fois plus d'eau que sur la Terre. Ouais. Sur Europe, 2 fois plus. Sur Titan aussi, des quantités énormes d'eau liquide.
Mais sauf que ces satellites sont très loin du Soleil. Donc là, la source Soleil qui apporte l'énergie, elle n'y est pas. Alors, ça ne manque pas pour imaginer une vie.
Non, il nous faut toujours une source d'énergie, comme disait Puri tout à l'heure, justement. Il y a d'autres formes d'énergie. Il y a par exemple le volcanisme. Donc, on sait que sur Encelade, par exemple, on a des geysers, donc on a du cryovolcanisme, qui signifie du volcanisme où, au lieu d'éjecter de la lave, on éjecte de la glace, quelque part. On a aussi des sources d'énergie au fond des océans. Par exemple, dans le cas d'Europe et d'Encelade, on suppose que nous avons au fond des océans cette énergie qui vient des conditions chimiques de ce couple redox qu'on a sur Terre, qui nous fabrique les conditions au fond des océans terrestres où on trouve des organismes qui sont capables de survivre à des conditions de pression et de température extraordinaires.
Ouais. Alors le champ d'investigation ne se limite pas aux planètes du système solaire ni à leurs satellites. Il y a plus de 1000 milliards de planètes dans notre galaxie. Comment savoir si une d'entre elles abrite la vie? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette Tête au carré. Pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr.
Je me souviens d'une terre brûlée alentour, d'une vallée de larmes où chacun cherchait l'amour. Je me souviens des frémissements les plus légers, je me souviens. En demi-conscience, j'allais au fond des ténèbres, sous ta robe blanche, la nuit est surnaturelle. Je me souviens d'une voile tendue au fond de la nuit, je me souviens. Je me souviens d'un monde dans l'univers, je me souviens de l'appel de la lumière, d'une dame en noir qui gifle le loup des mers, je me souviens. Je me souviens par la bride dans l'obscurité, je me souviens de l'altitude où je me trouvais, je me souviens boire dans un même ruisseau, je me souviens. Je me souviens d'un assassin dans la montagne, une digue, un pont, la bataille de Wagram, d'une milanaise et d'un qui vient à mourir, je me souviens. Je me souviens de matins passés hors de France, je me souviens du regard des gens de Florence, je me souviens de savantes mains de bourreau, je me souviens. Je me souviens que le cœur frémit d'amour, que l'amour s'en va si orgueil avec amour. Je me souviens qu'on me déshabille à la nuit, je me souviens. Je me souviens du parfait vassal que j'étais, pensant ta voix basse, pourquoi veut-elle me tuer? Je me souviens comme agité de tremblement, je me souviens. Je me souviens que le père venait de mourir, d'une armée anglaise piétinant mes souvenirs. Je me souviens de Murat aux portes de Naples, je me souviens, je me souviens. Je me souviens, 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 je me souviens.
Je me souviens, c'était Jean-Louis Murat sur France Inter.
La tête au carré, Daniel Fievé.
Regardez juste où vous mettez les pieds, c'est tout.
Direction Dalol, un site unique au monde.
Waouh.
Des lacs d'acide, des colonnes de sel et de soufre, des geysers brûlants. La vie est-elle possible dans cet environnement hostile ?
48,6. Et pH -0,79.
C'est un concentré de chaleur, de sel, d'acidité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Les roches de Dalol, les scientifiques les ont rapportées dans leur laboratoire. Surprise, il y a bien de la vie dans ces conditions extrêmes. Ces micro-organismes, les voici. Ils mesurent à peine un micron. Mais ils pourraient nous renseigner sur l'histoire de la vie sur Terre. Car le site de Dalol ressemble à la Terre des origines avec ses volcans et ses sources d'eau chaude. Dalol ressemble peut-être aussi au sol de certaines planètes encore inexplorées. Alors s'il y a de la vie à Dalol, peut-être pourrait-il y en avoir ailleurs dans l'univers.
Nous étions à Dalol, en Éthiopie. Seuls nous seuls dans l'univers, c'est le thème de notre émission et c'est le titre du premier Figaro Science, paru hier en partenariat avec Ciel et Espace. Autour de la table, Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de ce premier Figaro Science, Athéna Koustenis, astrophysicienne, et Purification Lopez Garcia, microbiologiste. Purification Lopez Garcia, le reportage, l'extrait de reportage de France 3 que nous venons d'entendre, ça doit vous rappeler des choses parce que vous êtes allé expérimenter et étudier la vie qui se développe sur ce milieu extrême. Mais d'abord peut-être une description du lieu. Vous avez vraiment l'impression d'être sur une autre planète quand vous débarquez à Dalol ?
En réalité, oui, tout à fait. C'est un endroit assez unique, très divers, même si très extrême partout, avec des combinaisons de paramètres extrêmes en termes d'acidité, de chaleur, température entre 30 et 110 degrés à la surface et une salinité très importante. On est en saturation, on est dans un paysage qui se remodèle tout le temps parce que c'est des sels qui s'érodent très vite et se forment très vite en faisant des fleurs minérales incroyables. Je vais peut-être vous décevoir, mais c'est un endroit, Dalol, c'est un endroit très intéressant parce que on a des endroits avec de l'eau liquide où il n'y a pas la vie. Il y a des endroits où on trouve la vie, mais dans certains des endroits de Dalol, on ne trouve pas la vie, du moins pas les résultats que nous avons pu obtenir ne le montrent. Donc, doublement intéressant parce que là, on a bien un exemple d'un système terrestre où on a l'eau liquide à la surface et on ne trouve pas la vie.
Oui, effectivement, c'est plutôt décevant. Moi, je m'attendais plutôt à ce que vous nous disiez, ces formes de vie nous évoquent des possibilités pour d'autres planètes.
Oui, en fait, dans certains endroits du dôme de Dalol, on a des échantillons dans des systèmes, dans des écosystèmes qui sont multi-extrêmes, et on a une vie par ailleurs très intéressante. On a des micro-organismes qu'on appelle des archées, qui sont majoritaires, avec des nouvelles lignées. Et donc, les étudier, c'est certainement très intéressant. Effectivement, comme ça a été évoqué dans le reportage, on a des archées de taille très, très petite. On parle des 400 nanomètres de diamètre. C'est vraiment, même avec un microscope, on a du mal à les voir. Et donc, étudier leur gène, leur génome, ça va nous apporter des informations sur les adaptations de ces micro-organismes.
Athéna Koustenis, la description du site de Dalol en Éthiopie, est-ce qu'il évoque des paysages de planètes que vous étudiez ou sur laquelle on a posé des sondes?
Tout à fait. Moi, je pensais qu'on allait finir en disant qu'on est sur Io.
Ah oui, sur Io. Yodonkyo, c'est un des satellites d'une des géantes gazeuses.
Tout à fait, un des satellites de Jupiter où le fer fond. On a 400 volcans à la surface. Et donc, moi, c'est l'exemple que j'utilise pour dire, non, justement, là, c'est pas un environnement habitable. Mais comme on vient de l'entendre, la vie peut nous surprendre un peu n'importe où. Ce qui est important, c'est que nous, quand on explore le système solaire pour le moment, parce qu'il y a là qu'on peut aller avec des sondes, notamment avec des sondes qui utilisent des panneaux solaires, on peut arriver jusqu'à Jupiter, et c'est ce qu'on va faire avec la mission JUICE prochainement. L'intérêt, c'est de tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de savoir, est-ce que ça suffit? Est-ce que si on trouve l'eau, est-ce que si on trouve de la chimie organique, est-ce que si on trouve des sources d'énergie, est-ce que si on réunit tout ça avec un environnement stable, et qu'on trouve pas la vie, qu'on la trouve nulle part, même sous la surface, même sur ces satellites, même sur ces mondes, est-ce que ça veut dire, comme vous posiez la question au départ, qu'on est un phénomène un petit peu particulier?
L'exception. Est-ce qu'on est un processus banal ou est-ce qu'on est l'exception de tout le cosmos?
Voilà, et là je pense que chaque personne, on n'est pas obligé d'être scientifique pour avoir un avis personnel. Parce que là, quand on me pose la question, et vous, est-ce que vous croyez qu'il y a de la vie dans l'univers? J'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est qu'après le système solaire, on trouvera des moyens d'aller regarder un peu plus loin pour chercher dans les zones d'habitabilité des systèmes planétaires ailleurs.
C'est ça, parce que Philippe Hénarejos, on peut aussi se dire que l'échantillon dont on dispose, avec ces 7 planètes autres que la Terre dans le système solaire, et puis ces quelques satellites qui gravitent autour de certaines, on n'a que un faible échantillon, alors que maintenant les scientifiques en ont la certitude, il y a en dehors de notre système solaire des milliards d'autres planètes. Ça ouvre le champ des possibles, ça aussi.
Oui, certainement. Et en fait, la réponse des astronomes à cette question, elle va être un peu optimiste. Elle va tendance à être optimiste parce que c'est le bon sens. Si vous avez des milliards, des milliers de milliards de planètes, ce serait bien le diable s'il y en a pas une ou deux qui ressemblent à la nôtre et donc où les mêmes choses ont entraîné les mêmes résultats. Les conditions d'apparition de la vie nous restent mystérieuses. Donc, il peut y avoir ces milliards de planètes et, comme on le disait à l'instant, il se pourrait aussi que la vie soit un phénomène qui requiert tout un tas de conditions. Le fait qu'il y ait des planètes, ça semble nécessaire. Le fait qu'elles soient habitables, c'est nécessaire aussi. Le fait qu'il y ait de l'eau, etc. Mais il y a peut-être plein d'autres ingrédients qu'on ne connaît pas et qui rendent la chose extrêmement complexe. Alors, on oscille toujours entre un optimisme délirant, celui certainement des astronomes, et quand même une tempérance ou un pessimisme plutôt des biologistes.
Et parfois, les scientifiques découvrent des systèmes solaires qui ont quand même de quoi enflammer l'imagination, comme en février 2017 avec l'annonce de la découverte du système TRAPPIST.
À des milliards de kilomètres, dans la proche banlieue de notre Soleil, un cortège de 7 exoplanètes autour de l'étoile TRAPPIST. Une découverte exceptionnelle pour les astronomes, car elles pourraient être des sœurs jumelles de la Terre. L'orbite décrite par ces 7 exoplanètes autour de leur étoile est un indicateur précieux pour les astronomes. De telles structures rocheuses n'avait jusqu'à présent jamais été observé en dehors du système solaire.
Ces planètes sont les plus importantes parmi toutes les planètes que nous connaissons. Elles nous permettent d'observer, grâce à ce télescope spatial que nous avons lancé récemment, les signaux typiques d'une atmosphère probable.
7 exoplanètes autour d'une naine rouge, donc d'une étoile plus petite que notre Soleil, Athéna Kosthénis.
Oui, tout à fait. Je voulais signaler que c'est pas la même étoile que la nôtre, déjà. Donc l'énergie, elle est beaucoup plus faible. Parmi ces 7 planètes, il y en a 2 ou 3 qui peuvent être dans la zone d'habitabilité, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est quand même extraordinaire, et il faut le rappeler, que tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on découvre pour les planètes extrasolaires depuis maintenant 1995, la première découverte par Michel Mayor, remet en question tous nos modèles, toutes nos idées préconçues sur comment se comporte un système solaire, et que les planètes terrestres sont les plus proches de l'étoile, et les autres sont plus loin.
Alors en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les scientifiques ont manqué prodigieusement d'imagination. On s'attendait à trouver des systèmes solaires qui ressemblaient aux nôtres. Et plus on observe, plus on se rend compte qu'il y a une infinité de combinaisons et que nous sommes peut-être assez exceptionnels au niveau de l'organisation de notre système solaire.
Tout à fait, notre système solaire n'est pas du tout un modèle standard. Et la raison pour laquelle la première découverte d'une planète extrasolaire revient à Michel Mayor avec un tout petit télescope, alors que les Américains avaient des énormes télescopes, c'est tout simplement parce que avec Didier Queloz, ils avaient un esprit ouvert et ils se sont pas dit je vais chercher une planète la plus grosse forcément loin de son étoile, mais ils ont balayé toutes les distances à partir de l'étoile de 51 PEG qui était ce système. Et c'est comme ça qu'ils ont trouvé la première exoplanète. Donc il faut avoir une ouverture d'esprit quand on est scientifique et quand on cherche quelque chose.
C'est intéressant hein, ça, Philippe Hénarejos. Peut-être que encore aujourd'hui, quand on cherche la vie, on manque d'imagination. Comme on ne sait pas ce qu'on cherche, ça biaise un peu la façon de chercher.
Oui, mais alors, comme on ne sait pas ce qu'on cherche, on est quand même obligé de partir de ce qu'on a et de rechercher quand même ce qui ressemble à ce qu'on a. C'est-à-dire, on va essayer, évidemment, au départ, de chercher des analogues de la Terre. Après, à mesure qu'on va faire des découvertes qui seront en dehors de ça, en dehors de ce schéma, on va progresser et se dire, tiens, après tout, sur des systèmes un peu plus exotiques par rapport aux nôtres, on peut imaginer ça et ça, et donc on va progresser comme ça. Mais c'est naturel qu'on cherche d'abord des choses qui nous ressemblent.
S'il y avait, sur une de ces planètes habitables, lointaines, exoplanètes que l'on a déjà identifiées, s'il y avait une civilisation intelligente, au moins aussi intelligente que sur Terre, ou peut-être même plus avancée, est-ce qu'on l'aurait identifiée ou est-ce qu'on les observe de façon tellement indirecte, ces exoplanètes, qu'on ne le saurait même pas?
Aujourd'hui, non. On n'a pas encore la capacité à analyser suffisamment finement le spectre, c'est-à-dire la lumière réfléchie de ces planètes, pour arriver à dire... On a un marqueur de la vie de manière certaine. Ah oui. Et quand bien même on les verrait, on commence à chercher ça. Mais sur des planètes rocheuses comme ça, c'est encore compliqué. Tout dépend de la distance. Les télescopes sont en train d'évoluer. Il y a des très gros télescopes qui sont en train de se construire avec des nouvelles instrumentations qui vont sans doute permettre ça d'ici, allez, une dizaine d'années. Mmh. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Alors il y a une autre méthode pour savoir une civilisation, s'il y a une civilisation technique comme ça, c'est aussi d'écouter avec des radiotélescopes pour savoir s'ils n'émettent pas.
Voilà. Justement, on va s'y intéresser plus particulièrement à cette façon d'écouter de possibles civilisations extraterrestres intelligentes dans la dernière partie de cette Tête au Carré. Puis vous répondrez aux questions des auditeurs.
The new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many.
Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always.
Two bad bitches and we kissing in a way. Kissing, kissing in a way. Kissing in a way. I need that black card in the code to the safe. Code to the safe. Code to the safe. Safe. I show 'em how to network. Fuck that Netflix and chill. What's your network?
Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you. Down for you. Down for you always.
Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always, KB. Do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I'm... Bring that ass, back. Bring that ass, back.
In My Feelings, c'était Drake sur France Inter, la programmation musicale de La Tête au Carré, signée Thierry Dupin.
La Tête au Carré.
Je l'ai, pile dessus.
Fais-le-moi entendre.
Le NORAD ne repère aucun avion furteur dans cette zone.
Quoi que ce soit, ça n'est pas local.
Position ?
J'ai vérifié la photométrie, je crois que c'est dans la constellation de la Lune.
Vega ?
Impossible, elle n'est qu'à 26 années-lumière.
Attendez, une minute, ce sont des chiffres. Il y a eu un 3, celui juste avant était un 2. Basé sur 10 chiffres, commençons à compter.
Ça fait 5.
Ce sont des premiers.
On a cherché Vega pendant des années, sans aucun résultat. Voilà qu'hier, ils émettent des nombres premiers. Pourquoi ?
Ça ne date pas vraiment d'hier, parce que le signal a dû être émis il y a 26 ans.
Si la source du signal est si sophistiquée, pourquoi employer l'arithmétique ?
Exactement, pourquoi ne parle-t-il pas notre langue ?
Parce que 70% de la planète ne parle pas notre langue. L'arithmétique est le véritable langage universel, sénateur. Nous pensons que ça peut être une balise qui nous répond ou une annonce pour attirer notre attention.
Un extrait du film Contact. Mmh. Nous allons nous intéresser à la possibilité de l'existence de civilisations extraterrestres intelligentes avec nos invités Athéna Kousténiste, astrophysicienne, Purification Lopez Garcia, microbiologiste, et Philippe Hénarejos, rédacteur en chef de Ciel et Espace et du premier numéro du Figaro Science intitulé « Sommes-nous sommes seuls dans l'univers ?» Philippe Hénarejos, les scientifiques traquent, on l'a compris, hein, toutes sortes de formes de vie, a priori microscopiques, mais s'intéresse-t-il aussi sérieusement à la possibilité qu'existerait quelque part dans le cosmos des formes de vie évoluées, des civilisations intelligentes ?
Oui, depuis les années 60, des expériences d'écoute avec des radiotélescopes d'autres systèmes stellaires ont été menées. Le son régulièrement aussi à travers quelques radiotélescopes dans le monde. Donc en gros, pour faire simple, on essaie d'écouter s'il n'y a pas un message qui vient d'ailleurs dans l'univers, puisque nous-mêmes, on s'est amusé dans les années 70 à envoyer des messages codés avec des suites de 1 et de 0 qui racontaient un peu qui on était,
pourquoi on faisait ça. Qui racontait quoi d'ailleurs?
Parce que c'était un message de présentation, c'était plus destiné à nous-mêmes qu'à la cible, parce que la cible était à 25 000 années-lumière, donc si d'aventure ce message n'est pas trop faible quand il arrive et qu'il soit capté par quelqu'un, il faudra encore 25 000 autres années pour qu'une réponse arrive, donc c'est dans 50 000 ans.
Ouais. On a intérêt à poser une question dont on a vraiment envie de connaître la réponse. Hein, parce que voilà.
Non. Mais c'était plus comment ferions-nous un message? Alors on racontait qui nous étions, il y avait en gros un petit schéma qui montrait l'être humain, à quoi il pouvait ressembler, ouais, de quelle planète il venait, par rapport à son soleil, voilà, la double hélice d'ADN pour expliquer quelle était notre forme de vie, et puis la forme du radiotélescope qu'il avait envoyé.
Alors Mylène qui nous écoute vous pose cette question: a-t-on réussi à répondre au paradoxe de Fermi? Alors vous abordez la question du paradoxe de Fermi dans ce numéro du Figaro Science. Rappelez ce que c'est déjà.
Oui, le paradoxe de Fermi, c'est une manière de penser, d'essayer de cerner la question: sommes-nous seuls dans l'univers? Comment on peut y répondre? Et donc c'est Enrico Fermi, qui était un prix Nobel de physique, qui a un peu mis sur la table tout ce qu'il avait, et il est parti d'un postulat. Du postulat que nous, civilisation humaine, nous ne sommes ni la première ni la dernière. Il faut bien que ça commence à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête à un moment donné. Donc on est en gros une civilisation banale. Et donc on est là, et si d'autres civilisations existent, donc il y en a qui ont forcément commencé avant nous, qui bénéficient de milliers, voire de millions ou de dizaines de millions d'années d'évolution en plus que nous, et il y a tout un tas de critères qu'il faut vaincre pour pouvoir se déplacer, c'est-à-dire les distances, les lois de la physique, etc. Tout ça, c'est des entraves terribles pour que des civilisations se déplacent d'une étoile à une autre. Et donc Fermi, après avoir examiné tous ces éléments, arrive à la conclusion que si nous sommes une civilisation banale, eh bien les autres
devraient déjà être là.
Or, ils ne sont pas là. Jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas là.
Mais alors, comment on répond à ce paradoxe?
Il y a à peu près autant de réponses qu'il y a de gens qui se posent la question de savoir comment on y répond. Il y a des livres entiers qui ont été écrits avec tout un tas d'arguments. Par exemple, j'en prends un au hasard. Eh bien, il se pourrait que quand une civilisation, si d'aventure ça existe, arrive à conquérir, à explorer une galaxie tout entière, eh bien, elle le fait, mais il reste des zones qui ne sont pas explorées. Après tout, prenons l'exemple de la Terre. On connaît très bien la Terre, elle est cartographiée partout, mais il y a encore des endroits où on n'est pas allé. Donc, ça pourrait être ça.
On n'intéresse pas les extraterrestres et les civilisations.
Ou ils sont passés à côté.
Ou alors ils sont déjà passés quand nous n'étions pas en état de les recevoir.
Autre réponse, nous sommes les premiers. Ou les derniers, c'est possible statistiquement.
Allez, d'autres questions. Victor qui demande, serait-il possible d'être sûr de la présence de la vie sans envoyer de satellites? Athéna Kousténis, c'est vrai que pour le moment, les sondes, on ne les envoie que dans le système solaire. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer envoyer des sondes sur ces mondes, ces exoplanètes?
Oh, on pourrait l'imaginer. Et déjà, comme le disait Philippe tout à l'heure, nous avons les moyens qui sont les télescopes, qui sont extraordinairement puissants au jour d'aujourd'hui, qui nous permettent par exemple d'aller explorer les atmosphères de ces exoplanètes dont on parlait tout à l'heure. Et une des recherches qu'on fait en premier lieu, c'est de voir quels sont les composants dans ces atmosphères. Voir si par exemple, il y a du méthane, si on peut détecter la chlorophylle, si on peut détecter l'ozone et des choses que... pour ce qui est de la vie, montre un intérêt particulier. Mais sans les sondes dans le système solaire, par exemple, une fois qu'on avait envoyé la sonde Huygens sur Titan, c'est là qu'on a découvert ce monde avec des étendues de liquide à la surface qu'on n'aurait pas pu voir autrement.
Donc pour répondre à la question de Victor, hein, le fait de ne pas pouvoir envoyer de sondes, c'est quand même difficile d'être sûr de ce qui se trouve...
Je pense que même sur Terre, si par exemple on veut savoir s'il y a de la vie tout au fond des océans où on n'a pas encore accès, si on n'arrive pas à y aller, on aura du mal à dire qu'à l'exclure.
Ouais. Purification de Lopez Garcia, Magali demande « Nous nous sommes adaptés à la Terre et pas l'inverse. Les recherches se basent sur ce qu'on est. Pourquoi ne veut-on pas vouloir voir plus loin et croire qu'une autre vie s'est peut-être développée en s'adaptant à une autre planète sans eau ni oxygène ?»
Bon, déjà, en parlant sur la Terre, l'interaction va dans les deux sens. Hein. Nous nous sommes adaptés à la Terre et la Terre, d'une certaine manière, s'est adaptée et s'est transformée grâce à nous, à nos activités. Le changement climatique est d'une certaine manière là pour le prouver, mais aussi la présence d'oxygène dans l'atmosphère qui a été le résultat de l'activité photosynthétique de premières bactéries qui ont développé cette photosynthèse, les cyanobactéries. Et donc, on pourrait imaginer tout un tas de choses, mais certainement, toute la question repose sur la dichotomie entre un certain déterminisme, c'est les conditions nécessaires pour qu'une potentielle forme de vie se développe, et l'aspect de la chance, l'aspect des possibilités de réaliser des choses intéressantes. Et c'est vrai qu'une chimie basée sur le carbone permet une panoplie, une diversité des molécules organiques flexibles qui changent tout le temps, qui nous permet d'avoir accès à tenter beaucoup plus à ces aspects chance.
Pour conclure en 15 secondes, Philippe, est-ce qu'on a vraiment intérêt à se signaler à des possibles civilisations intelligentes et peut-être plus avancées que nous
Faut-il leur parler? Si on se fie à la seule histoire qu'on connaît, qui est l'histoire de la Terre, quand on est découvert par quelqu'un d'autre, en général, ça se passe mal pour nous.
Non c'est ça. Hein. S'ils sont aussi belliqueux que nous, ça ne va pas se passer pacifiquement.
Mais si quelqu'un reçoit un message, c'est qu'il est peut-être très évolué et qu'il se comporte beaucoup mieux que nous l'avons fait jusqu'à présent.
Ouais, voilà, on peut toujours espérer. Allez, je rappelle le titre de ce premier Figaro Science créé par le Figaro en collaboration avec Ciel et Espace et qui est disponible depuis hier chez tous les marchands de journaux. Il s'intitule donc « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» et Philippe Hénarejos vous donnez ce soir à la Cité des Sciences une conférence. Le thème de cette conférence?
C'est la mission Apollo 8. En fait, c'est les premiers extraterrestres humains. C'est les premiers humains à être allés sur une autre planète, mais c'était la Lune. Autour d'une autre planète, c'était la Lune.
C'est à 18h ce soir à la Cité des Sciences et puis tout le week-end, les rencontres du ciel et de l'espace à la Cité des Sciences. Merci à tous les trois.
La science grand format, en partenariat avec France 5.
Et avec David Amiel de France 5. Bonjour David.
Bonjour.
Alors ce soir, nous partons pour un très beau voyage. Nous partons en Crète au palais de Knossos, véritable prouesse de l'Antiquité.
Oui, en effet, les bâtisseurs de Knossos étaient des gens très ingénieux. Ils ont vécu plus d'un millier d'années avant les Grecs et les Romains. Et pourtant, ils ont réalisé un complexe architectural qui résiste encore aujourd'hui à l'épreuve du temps, et notamment aux nombreux tremblements de terre de la région.
Alors le site nous fait vraiment penser à un labyrinthe, ce qui a créé beaucoup de mythes et de légendes autour de cet endroit.
Oui, en effet, surtout pour les Grecs. Eux pensaient que Knossos était autrefois le palais d'un roi qui avait emprisonné dans le labyrinthe de Dédale une créature terrifiante, mi-homme, mi-taureau, le Minotaure.
Le fameux Minotaure. Il faut dire que parmi toutes les magnifiques fresques du site, le taureau est un symbole qui apparaît partout.
Ah oui, l'animal était vraiment central dans la culture minoenne. Les locaux pratiquaient même le sauter de taureau dans la cour centrale de Knossos. C'était un lieu de convivialité pour tous et c'était aussi l'occasion de montrer ce qu'on valait en tant qu'homme. Mais les archéologues ont découvert également une salle qui, elle, était par contre réservée à l'élite.
Allez, on écoute un extrait de ce documentaire diffusé ce soir.
La salle du trône est la pièce la plus importante de tout le palais. Ses murs somptueusement décorés et ses bancs en pierre indiquent que l'élite minoenne devait se réunir ici. Au centre, flanqué de deux griffons, le trône finement sculpté dans la pierre semble prévu pour un roi. Mais un détail interpelle les historiens. À l'aube, au solstice d'hiver, le soleil est aligné avec la porte et illumine le trône qui se retrouve baigné d'une lumière sublime, presque surnaturelle. Était-ce le trône d'un roi ou le siège d'un puissant chef spirituel ?
Et la personne qui s'asseyait sur ce trône, David, devait attirer tout de suite l'attention sur elle.
Ah oui, mais selon les archéologues, cette chambre n'était pas seulement le siège du pouvoir, c'était plutôt un lieu spirituel pour les cérémonies qui marquaient les saisons. Et ce trône n'était donc peut-être pas celui d'un roi, mais plutôt celui d'un prêtre ou d'une prêtresse.
Alors au-delà de la religion, le commerce était très influent aussi chez les Minoens. C'est ce qu'on découvre dans les vestiges de l'île de Moklos.
Ah oui, effectivement, c'était l'une des toutes premières plaques tournantes du commerce international. Alors aujourd'hui, l'huile d'olive, par exemple, est l'un des produits les plus exportés par la Crète. Mais il y a 3500 ans, elle était déjà très demandée pour faire du parfum, la cuisine ou encore en médecine. Et c'est ce qui a donné toute cette puissance économique à Knossos.
Tout ça est à découvrir ce soir dans le documentaire Crète, enquête sur les derniers Minoens. Ce sera à 20h50 sur France 5. Merci David et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.